des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
Bonjour, messieurs.
Alors, une bizarre affaire, là. On parle de ces accusés de complot et de méfaits. Les gens vont s'en souvenir. Là, un groupe d'anti-mesures sanitaires qui avait bloqué le pont-tunnel La Fontaine. Et là, a priori, c'est une toute petite cause, là, en termes d'importance et d'argent, mais qui pourrait prendre un temps fou, gaspiller un temps fou du palais de justice.
Ben, en fait, je vais revenir sur ces propos-là, puis je voulais faire un petit tour avec vous, mais effectivement, là, on demande de fixer un procès de 20 jours pour entendre l'entièreté de la preuve dans cette affaire-là. Effectivement, on parle de méfaits, accusations pour des méfaits de moins de 5 000 $ suite au blocage du tunnel, lui, Hippolyte Lafontaine, mais de complot également. On parle aussi de 6 co-accusés. Ça, il faut le mentionner, quand on a plusieurs personnes dans le même dossier, ça peut justifier la longueur des délais, de la durée d'un procès qu'on va fixer, puisque chacun a le droit de présenter une défense. Chacun a le droit également de contre-interroger les témoins qui vont défiler de la part de la poursuite. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un dossier où la gravité, par exemple, ou les conséquences pourraient être évaluées plus petites que, par exemple, un gros dossier de drogue ou une expertise de fraude, par exemple, mais qui n'en demeure pas moins, qui nécessite ce temps-là. Et ça aussi, je voulais le mentionner, ce sont tous des individus sans avocat. Alors, quand il n'y a pas d'avocat pour filtrer le débat...
Ça ralentit.
Ça ralentit, c'est clair, puisque déjà, l'analyse de la preuve ne se fera pas nécessairement de la même façon. Le traitement de chacun des témoins, poser les bonnes questions, et on le mentionne, hein, le contre-interrogatoire est un art, et c'est un art qui s'apprend avec la pratique, et on le dit, on le répète tellement souvent à l'école, ça prend même presque 30 ans d'expérience. Alors, c'est clair pour moi que des non-juristes qui se lancent là-dedans, ça implique tout un défi et également tout un défi de respect des règles de procédure.
Donc, quand il y a plusieurs jours qui sont prévus comme ça, est-ce que ça retarde le moment où on peut inscrire dans le rôle? Parce que là, il faut trouver du temps au palais de justice. Est-ce que ça reporte le moment où on va pouvoir tenir le procès?
Bien, c'est sûr et certain. En ce moment, la réalité des délais judiciaires, là, on parle du district de Montréal, c'est quand même un énorme district. Il y a beaucoup de volume, donc beaucoup de dossiers qui transigent par là. Dès qu'on fixe des dossiers de plus de 2 jours, on nous envoie en gestion, c'est-à-dire on passe devant un juge qui va évaluer avec les parties la durée qu'on a cru bonne de fixer avant de fixer ces dites dates-là pour justement filtrer ou ramener à une durée plus raisonnable celle qu'on prévoyait avant de fixer ces dates-là. Donc déjà ça allonge un petit peu plus les procédures, mais on s'entend, ça permet d'ajuster le tir si jamais on voit que c'est déraisonnable. Et dans ce cas-ci, le juge Labelle a tranché qu'en raison également des demandes que les co-accusés ont faites, soit des requêtes qu'ils désirent présenter, il évaluait le tout à peu près 10 jours sur le fond, donc pour la présentation de la preuve, les contre-interrogatoires, et 10 jours pour la présentation de chacun de ces co-accusés-là, de leurs requêtes qui sont présentées au moment du procès. Et après ça, je vais vous le dire, là, pour 2-3 jours, là, ça va au printemps. Là. Alors pour 20 jours de procès, faudrait voir, ce sera peut-être un procès qui sera divisé sur 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, ou si on est capable de monopoliser une salle, monopoliser un juge pour cette durée-là, ben ça risque potentiellement même d'aller à l'été ou à l'automne prochain.
Mais ben. Un autre dossier de méfaits, celui-là bien différent, pour une adolescente accusée de méfaits pour des propos menaçants dans une école.
Oui, ça, je voulais revenir là-dessus, surtout pour envoyer un message très clair à toutes et à toutes, mais surtout à nos jeunes, de ne pas prendre pour acquis que lorsqu'on partage des choses sur les réseaux sociaux ou qu'on fait des appels même anonymes, que ça va passer dans le beurre et que ça peut se faire sans conséquences. Il peut y avoir des conséquences et malheureusement, c'est une école sur la rive sud, Héritage, qui a été déjà ciblée en 2019 et en 2020 par ce même type de propos-là, où on a obligé la suspension des cours, où il y a eu un grand déploiement policier. Et là, on a réussi à mettre la main sur une jeune adolescente qui ne fait pas partie du réseau de cette école-là, qui aurait été arrêtée mardi suite à une enquête. Et elle fera face à des accusations de méfaits publics qui peuvent avoir des conséquences sur son avenir. Alors clairement, là, c'est des choses qu'on ne prend pas à la légère, ce sont pas des blagues à faire.
Oui, quand on parle d'avenir, ça représente quoi? Parce que là, on parle d'adolescents, des menaces qui étaient visiblement pas fondées.
Mais il y en a eu encore cette semaine, parce qu'à Heritage, il n'y avait pas d'école. C'est lundi ou mardi, là. On avait ça dans les nouvelles au début de la semaine. Il y a eu encore une journée, je sais pas si c'est elle qui l'a refait, mais il y a eu une journée de congé forcé à cause de menaces. Je pense que c'est lundi.
Oui, c'est ça, c'était en début de semaine, mais c'était suite à cette menace-là, justement, Mario, que les enquêtes ont été faites.
OK, OK, OK.
Avec un jeune adolescent, un garçon, pour finalement réaliser que ce n'était pas lui. Et l'enquête a mené finalement à cette jeune
fille-là. OK.
Exactement, exactement.
Elle s'expose à quoi, donc, elle?
Oui, exactement. Donc, si, là, j'ai pas l'âge précis de la jeune fille, mais si elle est mineure, c'est sûr que ça va être traité là, sous la loi des jeunes contrevenants, donc des jeunes délinquants. Et cette loi-là, évidemment, pour rappeler au grand public, là, quand on est mineur, la responsabilité criminelle est moins grande que si on était jugé ou on est adulte. Et donc, on va évaluer d'abord la gravité, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle reconnaît les torts et la situation et l'impact de tout ça. On verra également, et je lui souhaite là, évidemment, et c'est ce qu'on fait généralement avec les jeunes, d'être représentés par avocat, de voir si elle a besoin de plus d'encadrement, c'est quoi sa situation. Et par la suite, en jeunesse, généralement, on évite la punition, mais plutôt la réhabilitation, d'essayer de voir avec elle comment cette chose-là ne se répétera pas, réduire le risque de récidive le plus possible et la réhabiliter. Mais elle est certaine que si elle est jugée et si elle est majeure, elle sera jugée aux adultes, elle peut faire face à un antécédent judiciaire et probablement une sentence qui vient avec ça. Que ce soit des travaux communautaires, une amende ou peut-être même de la détention si on juge que la gravité était grande et que son profil est trop, disons, un risque de récidive trop élevé là, et mériterait une sentence exemplaire.
Parlons de l'ex-juge Delisle qui est dans l'étape de son nouveau procès et qui a tenu à s'exprimer lui-même, là, à prendre la parole lui-même au palais de justice.
Oui, je voulais en parler d'abord parce que c'est une cause qu'on suit de très près et qui sera très intéressante. J'ai bien entendu hâte de lire la décision que le juge Aymon va rendre dans cette affaire. On comprend donc que les plaidoiries se sont terminées cette semaine. Rappelons au grand public qu'il y avait déjà eu la tenue d'un premier procès dans cette affaire-là. Il s'agit donc de la mort de sa conjointe tirée par balle. Il y avait une défense qui avait été présentée pour sa part. Une complication au niveau de la preuve d'expert dans le premier procès. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il a réussi en appel à déclencher, à avoir finalement l'obtention de la tenue d'un deuxième procès qui devait débuter, mais dont les avocats de l'ex-juge Delisle ont procédé d'abord. Et c'est normal de commencer par ça. Vous comprendrez qu'on ne va pas se lancer dans l'étude du dossier au complet devant la cour avant de trancher une telle requête exigé, comme ici, on demande l'arrêt des procédures. Alors, on va commencer par trancher cette question-là. Et dans cet arrêt-là, on plaide, entre autres, l'abus de procédure, le fait que le premier procès n'était pas juste et équitable par le fait que certains experts ou certaines preuves, entre autres, là, les tranches très divisées du crâne de la défunte n'ont pas été prises en compte, ne sont plus entre les mains de la poursuite. Et également la question d'un expert qui était là à la première instance, qui ne sera pas là à la deuxième instance et qui pouvait jouer un rôle quand même pivot. Donc, c'est ce qui a été plaidé. On verra qu'est-ce qui sera tranché. Mais le juge, l'ex-juge, désolé, a décidé de se lever à la fin pour parler au juge Aymon. Il a demandé s'il pouvait s'exprimer un petit 2 minutes et a insisté pour lui rappeler qu'il faut être convaincu quand on est au DPCP, que la preuve qu'on a et qu'on présente devant les tribunaux est suffisante pour mener à terme des accusations et mentionnait que, puisque la première fois, à son avis, il ne l'avait pas, de refaire un deuxième procès serait une injustice Et il aurait même cité, et ça je trouve ça cocasse, un arrêt de la Cour suprême avec la page précise. Mais tout ça pour vous dire, ça c'est un exemple d'un ex-juge. Et dans mes dossiers, souvent ça peut arriver que les clients parlent. Mais quand ils parlent et que c'est pas prévu,
c'est pas toujours bon.
Dire que c'est pas toujours bon et généralement j'ai les dents serrées, je suis pas très heureuse.
C'est ni bon pour ta cause, ni bon pour ton système cardiovasculaire et nerveux.
Non, exactement. C'est un peu d'évaluation, mais on essaie de développer des trucs des fois avec nos clients.
Ah, ok.
Et des fois ça marche pas toujours. Mais merci. En tout cas, gardez silence, écoutez vos avocats.
Merci Nada, salut.
Merci, à demain.